Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L-E-L-E-O, Lélélélélo. Salut les cocos. Avant que démarre notre épisode, permettez-moi de vous parler de Lélo, L-E-L-O, sponsor du podcast Colette se confesse pour ce mois-ci. Et cette année, Lélo, pionnier du marché des accessoires intimes haut de gamme, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25% avec le code COCO25. Je suis hyper heureuse de cette collaboration pour plein de raisons. Voici pourquoi. Alors déjà, ils ne quittent plus ma table de chevet. Depuis que j'ai testé les vibromasseurs Lélo, les copains, copines, amants qui m'écoutent peuvent en témoigner. Quand on arrive chez moi, j'ai quand même quelques vibros dans mon armoire. Mais il y a depuis récemment quelques coquillages qui ne quittent pas ma table de chevet. Et ce sont des produits de la marque Lélo. Je voudrais surtout vous parler du Lélo Dot Cruise. C'est un vibro qui a une forme vraiment spéciale. Au début, quand je l'ai reçu, j'étais en mode « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc ?» Je ne comprends pas. C'est un vibro en forme de pointe. On s'est hyper bien entendu avec l'équipe communication de la marque Lélo. C'est vraiment une équipe super chouette avec qui j'espère longuement travailler par la suite. Et en fait, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. Elle m'a dit « Écoute, tu m'avais dit auparavant que t'étais quelqu'un d'assez sensible, voire très sensible, et que du coup, les vibromasseurs, dès que c'était des vibrations trop fortes pour toi, c'était le plaisir passé à côté, quoi. » En fait, le Lélo Dot, toute l'idée, c'est que tu peux vraiment, du coup, pointer ton désir exactement là où tu veux. Et tu peux, du coup, l'utiliser de différentes manières, dans différentes pratiques. Donc, soit pour des choses qui sont vraiment de l'ordre du slow sex, ou soit, en fait, si tu le poses... Alors, moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai découvert, c'est que je le pose sur mon clito, sur la pointe du clito, mais quelques millimètres juste au-dessus. J'ai les vibrations qui se propagent sur tout le long de mon pubis. Le Lélo, du coup, c'est un vibro qui est allongé en forme de pointe, vraiment comme une forme de coquillage, et donc je l'allonge comme ça du haut jusqu'au bas de l'entrée de mon vagin, et donc ça me procure vraiment quelque chose de très très fort. J'ai quand même testé maintenant plusieurs vibros, et je trouve que souvent le problème, c'est que les modes, on a tendance à les connaître ou à les apprendre de manière assez automatique. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le Lélo Dot Cruise. Au moment de l'orgasme, il va relâcher 20% supplémentaire de vibration pour justement créer cette décharge dans ton corps. Et moi, ce que j'aime, c'est être surprise. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que la manière dont les vibrations amenaient le plaisir était vraiment originale, très chouette. Franchement, c'est hyper innovant dans le sens où... Et tu sens que c'est vraiment réfléchi pour à la fois faire du edging et à la fois faire venir le plaisir tout de suite. Sincèrement, je ne ferais pas ce message audio de cette manière-là si je n'étais pas première cliente, première fan de ce produit. Donc, vous pouvez me faire confiance là-dessus. À l'occasion de ce partenariat, exceptionnellement, il y a un code promo sur ce produit, alors que c'est un produit tout neuf, pour 25% de réduction sur le produit neuf, Lélo Dot Cruise. Et en plus de ça, ils sont super beaux. Il y a différents coloris avec une finition dorée, hyper élégant. Au-delà de leurs produits qui sont super classe, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. Je serais hyper curieuse d'échanger avec vous. On est toutes et tous vraiment très 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 différents en termes de sensibilité. Et les vibromasseurs, c'est un vrai sujet. J'en parle souvent avec ma communauté sur Discord et sur Instagram. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à venir poser vos questions aussi. Moi, je l'ai testé, donc si ça peut aider, tant mieux. Ça sert à ça. L-E-L-E-O. Lé-lé-lé-lé-lo.
Donc un jour, je prends cette décision plus ou moins sous la pression intérieure, extérieure de « il va me quitter, machin ». Et donc, je débarque chez lui, donc dans le 16e arrondissement à Paris, dans sa chambre de bonne, sous les toits, avec ma bougie, pour lui dire « c'est bon, je suis prête, on y va ». Et du coup, il était super content. Et j'essaie de me rappeler, mais je pense que sur le moment, il était assez respectueux, tu vois. Donc, ça s'est fait. Franchement, j'ai un souvenir assez neutre de ce moment. C'est-à-dire que ça a été douloureux, mais c'était pas non plus insupportable.
Voilà. Ah, t'as eu mal.
Ouais, j'ai eu mal, mais tu vois, en fait, je m'y attendais, donc tu vois, j'étais pas non plus dans une surprise. Donc,
mais déjà, ça, c'est pas. Oui. Déjà, ça, c'est un souci, quoi. Enfin.
Bah après, je sais pas si j'ai.
Cette fausse croyance de dire oui. qu'il faut avoir mal pour faire ta première fois, c'est terrible.
Ah oui, non, mais en tout cas, voilà, je m'attendais à ce que ce soit pas particulièrement extraordinaire, donc du coup, voilà. Et donc, on était dans la chambre de bonne, donc on a fait ça une première fois. Vraiment neutre comme souvenir.
T'arrives pas à dire que vous avez fait l'amour?
Non, ouais, on a fait. Bah non, parce qu'en fait, franchement, c'est. Ça... Franchement, honnêtement, je suis pas quelqu'un de. Comment dire, je trouve pas le mot, garde les griefs, voilà, de rancunier et tout. Genre, franchement, moi, je suis du genre, ouais, bon, c'est pas grave, soyons amis, genre, tout le monde s'aime et tout. Mais s'il y a bien une personne sur cette planète que je déteste profondément, enfin, je sais pas, c'est de la décession, je conchis, tu vois, sur 18 générations, c'est lui. Donc, du coup, parler d'amour dans ce truc-là, je pense que j'étais même pas vraiment amoureuse de lui, en plus. Donc, tu vois, il y avait pas ce truc-là. On a couché ensemble. Ouais. Une première fois, donc ça m'a laissé assez peu de souvenirs, comme tu le vois, parce que je ne suis pas capable de te raconter ça en détail, mais je sais qu'après, on est descendu, parce qu'en fait, c'est son oncle et sa tante habitaient dans le même immeuble, mais eux, ils avaient un appartement, un grand appartement, c'est un immeuble haussmannien, et ils n'étaient pas là. Et donc, en fait, on est descendu dans l'appartement, et on a recouché ensemble, à ce moment-là, dans l'appartement. Et du coup, là, comme c'était la fois d'après, c'était plus facile. Tu vois, pour moi, il y avait plus d'aisance, plus de fluidité. Donc, je crois qu'on avait dû faire l'amour sur le plan de travail de la cuisine, par terre, dans le bureau, oui, tu vois.
T'étais bien plus à l'aise.
J'étais vachement plus à l'aise. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné... Je ne sais plus exactement à quel moment, mais il m'a regardée. Je crois que c'est quand on était dans la cuisine. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai enregistré. Et il m'a dit « Ah ouais, mais en fait, t'es vraiment une grosse salope, toi. » Mais ce n'était pas dit dans le... Tu vois, tu peux dire, utiliser ce mot-là de façon joyeuse et sympathique. Mais tu vois, ce n'était pas dans ce sens-là. Tu vois, il y avait quelque chose de... Ou en tout cas, c'est comme ça que ça s'est intégré en moi. Ton désir a quelque chose de sale, tu vois. Le fait que tu aies du désir, que tu sois là en train de faire l'amour avec moi, d'avoir ce rapport sexuel et qu'en plus on le fasse dans des conditions, entre guillemets, tu vois, qui sortent de l'ordinaire, on s'entend, on était encore jeunes, hein, tu vois, mais c'est comme si ça avait quelque chose de, ouais, de sale et de... voilà, qui faisait de moi une salope. Et vraiment, dans sa bouche, c'est pas un compliment.
À l'intonation.
À l'intonation, à tout son non-verbal et à l'état de notre relation, de toute façon, tu vois, c'était pas du tout un truc.
Y avait quoi d'autre qui signifiait que c'était péjoratif de sa part?
Je pense que c'est comme ça que moi je l'ai perçu en termes d'énergie. Après, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je sens dans le non-verbal, je pense que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très...
Il y avait bien autre chose, il y avait bien... tu dis dans sa manière de se comporter, c'est qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Enfin, il y avait bien d'autres signaux aussi qui ont donné déjà l'alarme qui a fait que ça ne pouvait pas être perçu de manière positive.
Bah, je pense que tu vois, c'était dans la façon dont il avait de me dénigrer en dehors de ça dans la relation, tu vois.
D'accord. C'est, donc il te dénigrait.
Ouais, bah quand je disais que je voulais changer d'études et lui il m'a dit ah, mais en gros c'est de la merde ce que tu vas faire. Tu vois, il y avait, je pense qu'il était toujours en train de me prendre de haut. J'ai assez peu de souvenirs de quel moment, de tout ça. Ouais,
mais c'est plein de petites choses.
Mais c'est plein de petites choses et je pense que j'avais senti, tu vois. Et du coup, quand il m'a dit ça, en tout cas, moi, ça s'est enregistré en moi comme quelque chose d'hyper impactant. Et je pense vraiment de tamponnant, de... tu peux pas être désirante et en plus, faut pas le montrer. Et c'est pas... En plus, c'est quelque chose que j'ai retrouvé plus tard dans une autre relation qui, pour le coup, a duré plus longtemps, 3 ans et tout, où je sentais que quand je montrais mon désir à mon partenaire... Tu vois, il me disait « Ah, mais t'es une petite cochonne, en fait. » Mais tu vois, c'est pareil, c'était pas dit comme quelque chose de positif. C'était dit pour diminuer, tu vois, pour salir un peu le truc. Parce que je pense que c'était insupportable pour eux. Enfin, moi, c'est l'interprétation que j'en ai, tu vois. Ils supportaient pas, c'est comme s'ils pouvaient pas supporter le désir de la femme qu'ils avaient en face d'eux, pour les raisons qui sont propres à leur personnalité et leur propre névrose. Mais voilà, il y avait quelque chose, il fallait te rabaisser, tu vois. Il fallait. Comme si le fait de les désirer, ça donnait du pouvoir sur eux, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, il fallait qu'ils te mettent au sol, tu vois. Et je pense que sur le coup, j'ai pas vraiment relevé. Je crois qu'on a dû continuer à coucher ensemble plusieurs fois. Et bon, je finis par rentrer chez moi. Tu vois, c'est un truc qui s'est pas du tout révélé sur le moment. Et
t'as même pas le souvenir d'avoir eu un pincement au cœur, rien, pas à ce moment-là. Quoi.
Bah, en tout cas, ça a été suffisamment fort. Je pense que ça m'a un peu, voilà, tu vois, ça c'est quand même ça m'a marqué, tu vois. Alors qu'il y a peu de choses qui m'ont marqué dans cette relation. Comme tu le vois, comme tu le constates, il y a peu de choses qui m'ont marqué dans cette relation, mais ça, je m'en rappelle, tu vois. Donc, du coup, il y a quand même eu quelque chose qui s'est inscrit. Et ça se trouve, c'est pas exactement la phrase qu'il a dite, hein, mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai reçu. Alors, peut-être qu'effectivement, on pourrait se dire, j'aurais pu questionner, interroger, lui renvoyer, genre, mec, pourquoi tu dis ça? C'est quoi ton problème, tu vois? Et puis, non, voilà.
Mais attends, c'est ta première fois, déjà, voilà. tu comprends pas ce qui se passe.
C'est ça, du coup.
En mode découverte de la vie, là.
C'est ça. Et puis, en plus, il était un peu plus âgé, parce qu'il avait, il avait 23 ou 24 ans, mais à l'époque, c'est énorme, tu vois. Quand t'as 19 ans, 5 ans d'écart, c'est beaucoup maintenant.
Mais donc, c'était pas sa première fois?
Non, lui, c'était un. Je pense qu'il couchait avec toutes les meufs avec qui il pouvait coucher.
À 23-24, c'est-à-dire qu'il a couché avec 3 meufs max.
Je pense que c'était vraiment le genre de mec. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi il s'est mis en connaissance de cause des choses, pourquoi il a accepté de relationner avec moi, tu vois. Cette espèce de truc.
Ah, mais là, t'es dure avec toi-même. Peut-être que t'as apporté plein de choses.
Franchement, ça se voyait pas dans ce qui. Enfin, ouais, je sais. Non, mais moi, je sais que je suis une belle personne, c'est pas le sujet. Mais lui, il avait pas l'air d'être capable de recevoir ce que j'avais à donner.
Ah, oui.
Tu vois, c'est plus dans ce truc-là. Bref, c'est assez mystérieux. Puisqu'il avait l'air assez drivé par ses envies et pourquoi pas, tu vois.
Alors, que s'est-il passé après?
Et donc, du coup, après, je suis partie en vacances. Du coup, je suis partie en Inde.
Attends, déjà, t'es rentrée chez toi?
Bah en fait, je suis rentrée chez moi. En fait, j'ai vraiment pas de souvenirs. Non, mais je suis désolée, c'est
d'accord.
Assez.
Donc, même en rentrant chez toi, c'est pas à ce moment-là que t'as eu cette révélation du choc.
Non.
Donc, c'est venu plus tard, lors du voyage en Inde.
C'est même venu après, en fait. C'est parce qu'en fait, quand je suis partie en Inde, j'avais pas tellement de nouvelles. À l'époque, on avait des téléphones à clapper. Hein. Il y avait pas Internet, c'était pas moderne. Donc, j'avais assez peu de nouvelles.
Et quand tu pars en voyage en Inde, tu t'attends pas à ces nouvelles.
Oui, bien sûr. Oui,
il
n'y
avait pas de projet.
Aujourd'hui, c'est différent.
Oui, bien sûr. Mais oui,
tu t'envoyais. Tu sais, tu allais dans des cybercafés pour envoyer des mails, quoi. On dirait que je parle de la préhistoire, mais c'est ça.
Non, mais j'avoue, on dirait que tu parles. Mais
c'était ça, en vrai. Enfin, jusqu'à.
Mais oui, t'as raison.
C'était ça. En vrai, c'est un autre sujet, mais ça change complètement ton rapport au voyage, d'être dans cette
dynamique.
Et aux relations. Donc, bon, quelques échanges par mail, quelques textos, je pense, mais sans plus. Et je rentre, et là on se voit, et ça tu vois, je m'en rappelle très bien, nous étions sur le pont des Arts. Et là, il me largue, sans trop de raisons avancées. En gros, il me dit c'est terminé, c'est fini, etc. Pareil, un peu sous le choc, j'essaye de comprendre et tout, mais il veut pas m'en dire plus. C'est le mec en mode, non mais c'est pas grave, on peut rester amis, tu vois, je suis gentille et tout, machin. Et du coup, je rentre chez moi. Mais pareil, tu vois, là aussi, j'ai assez peu de souvenirs. Je pense que j'étais relativement triste. Et le lendemain ou le surlendemain... Ah si, pardon. Je me rappelle d'un événement qui s'est passé avant que je parte en vacances. C'était la fête de la musique. Donc, c'était genre la veille de mon départ. Et en fait, toute la soirée, on était encore ensemble, donc à ce moment-là, toute la soirée, il a dragué une des meufs du groupe de potes avec qui on était. En fait, j'étais avec mon ami chez qui je l'avais rencontré, et puis avec d'autres amis d'amis d'amis. Enfin, voilà. On devait être une quinzaine. Et toute la soirée, il a dragué cette meuf devant moi. Genre, il l'a collée, il a dansé avec elle. Il a même demandé à son pote de venir danser avec moi pour pouvoir aller danser avec elle. Tu vois. Mais c'est pour te donner l'idée, tu vois, le mec et l'ambiance du truc.
En fait, il était lâche.
Oh, c'est un connard. Donc oui, en plus, il était complètement lâche. Donc bref, il y avait eu ça. Je suis partie, je reviens, il me largue. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai un de mes amis, c'est ma pote qui, elle aurait pas dû le dire, mais c'est sorti, je sais pas, tout seul. Et j'apprends qu'en fait, il m'a trompée pendant que j'étais en Inde, parce qu'on était toujours censés être ensemble, avec cette meuf en question avec qui il dansait pendant la soirée. Et en fait, c'est là où il y a eu la cassure, vraiment pour moi. Parce que je pense qu'à l'époque, en plus, j'avais une grosse blessure de trahison. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de très fort là-dessus. Donc quand j'ai appris ça, Là, je suis descendue, je suis au moins un, je suis descendue au moins 150 000. Et ça a été insupportable. Ça a été insupportable émotionnellement, à tel point que donc j'apprends ça, je pense que je suis un peu sonnée et tout, je rentre chez ma mère, où j'habitais encore à l'époque. Et ma mère n'était pas là. Et le soir, je vais me coucher dans le lit. Je pense que c'est une des pires nuits de ma vie. Ça, je me rappelle, j'étais dans le lit en train de pleurer. Et j'avais tellement mal que j'étais comme ça, c'était un lit de place, tu vois, avec les bras de chaque côté. Et je m'accrochais au matelas en me disant dans ma tête, Claudia, ne fais pas de bêtises. Tu vois, parce que j'avais une partie de moi qui avait juste envie de me foutre par la fenêtre, tu vois. Et donc vraiment, je me rappelle en me disant, il faut pas que tu endors-toi, genre, il faut pas que, genre, concentre-toi, accroche-toi au truc et tout, parce que j'étais persuadée que si je lâchais ça, c'était pour dire la violence, tu vois, du truc, alors que ça paraît, c'est pas non plus un truc dramatique, mais en tout cas pour moi, à ce moment-là, ça a été vécu comme un truc insupportable. Et donc j'ai passé la nuit accrochée à mon matelas, ça a fait une espèce de grosse fissure, je sais pas, narcissique, égotique, émotionnelle. Je pense qu'en plus, il y avait ce truc de, tu vois, pendant longtemps aussi, j'ai attendu d'avoir cette première fois parce que je voulais que ce soit, tu vois, avec un mec super qui m'aimait, que ce soit parfait et tout. Et je me suis dit, mais t'as fait ça avec le pire, la pire personne au monde, tu vois, genre vraiment, truc de l'enfer. Donc, il y avait beaucoup de culpabilité, enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, le lendemain matin, je me réveille. Donc, j'avais dû dormir 2 heures. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, tu vois. Faut que je fasse quelque chose. Pétage de calgon. Je monte dans le métro, je prends la 10, je change, je prends la 6. J'étais là, je me revois dans la ligne aérienne, comme ça. Les immeubles qui défilent. La tour Eiffel. Ok, c'est bon, on va y arriver.
Le 16e.
Et je débarque. Je débarque sur le palier de sa chambre de bonne. Je toque comme ça, comme une furie. Et genre, il ouvre, genre avec un grand sourire. Tiens, genre, ah, qu'est-ce que tu fais là? Et tout. Je dis, bah, je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais je pense que je vais lui dire, ouais, c'est quoi cette histoire? Il paraît que tu m'as trompé avec Bidule et tout, machin. Et lui, il commence à nier, évidemment. Une fois, deux fois, trois fois, je lui dis, mais arrête de mentir. Genre, tout le monde est au courant. Genre, me prends pas pour une conne, quoi. Et non, lui, il continue à nier et tout. Et puis à un moment donné, vraiment, genre, out of nowhere, il me regarde comme ça, il me fait, non, mais sinon, si tu veux, tu peux rentrer pour faire le ménage, il n'y a pas de souci.
Quoi?
Mais c'est complètement lunaire.
Attends, quoi?
J'ai dit, c'est out of nowhere. Je sais pas, il voulait mettre fin à cette conversation, il était mal à l'aise. Je reviens, là, si tu veux, tu peux rentrer, faire un peu de rangement, si tu veux faire le ménage avec moi. Et du coup, tu pourrais répondre à ça. C'est très efficace pour fermer une conversation, remarque. Donc, j'ai fait, hein, non, non, enfin voilà. Et il m'a à moitié fermé la porte au nez. Donc, je me retrouve là sur le palier. Je n'avais pas franchi le palier, hein, donc j'étais là sur le tapis. Et je disais, bon, je fais quoi du coup maintenant? Et je commence pour partir. Et en fait, mon corps m'a complètement lâché parce que j'ai dû descendre 4 marches. Et je me suis assise. Et en fait, là, j'étais complètement tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Mon cerveau me disait, non mais Claudia, tu ne vas pas rester dans cet escalier toute la journée. J'étais genre, imagine, il sort de chez lui, il te voit dans cet escalier. Je pense qu'il aurait été capable de m'enjamber et de partir, vraiment. Je pense que c'était ce genre de personne. Mais je suis restée bloquée, franchement, je pense au moins 2 heures dans l'escalier. Heureusement, mes mains pouvaient fonctionner, donc je réussissais à envoyer des textos à mes potes. Et il y a mon meilleur pote qui m'a dit, je viens te chercher. Et en fait, le seul moment où j'ai réussi à me lever et à partir, c'est le moment où mon pote m'a dit, je suis en bas, viens. Et donc là, j'ai enfin réussi à bouger. Et je pense que ouais, ça a duré 1 heure ou 2 de tétanie, j'étais voilà, aspirée par cet escalier, je ne pouvais pas bouger. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, le choc a été a posteriori.
Qu'est-ce qui est à l'origine, tu penses, de ce... Parce que j'ai l'impression que cette histoire avec ce mec, c'est une conséquence, mais que la cause n'est pas vraiment là.
Ok,
Bah,
intéressant.
je sais pas, parce que... Enfin, c'est toi qui sais, hein, mais... Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il a touché un truc qui est beaucoup, beaucoup plus ancré en toi, qui est beaucoup plus profond, Et certes, c'est mêlé aussi à des attentes qu'on a du patriarcat, de qu'est-ce que c'est qu'être une fille bien, que quand t'as 17-18 ans, bah, t'as envie de rentrer dans tous les codes. Donc, t'as envie de plaire, t'as envie de... T'as envie d'être une salope, de montrer que t'es excitante, mais derrière on te fait la remarque, donc tu te dis ah merde, non, en fait, faut que je sois une bonne fifi. On en revient un peu, un schéma qu'on retrouve des années plus tard, mais ce fameux rapport entre la mère et la putain. Mm-hmm. Le début du combat interne d'une femme, ça commence là, finalement, mm-hmm. quand on commence sa sexualité et on est dans ces trucs-là. Une petite histoire à moi, comme ça. Pour comme ça on va pouvoir partager mon premier orgasme, c'était sur un stage UCPA avec un mec que je connaissais depuis 2 heures, avec qui je me suis bourré la gueule, bon voilà, avec tous mes nouveaux copains du moment, et en fait c'était un orgasme par la poitrine. Mm-hmm. Je sais pas ce qui s'est passé, genre je sais pas, j'ai trop kiffé ce qu'il a fait sur mes seins et ça m'a fait jouir, et avant ça j'étais super excitée, je l'avais sucé. Je pense, ouais, je suis quasiment sûre même que c'est la première fois que je suçais. Donc voilà, il y avait tout ce truc. Et puis il y avait du monde autour. Quand ils éteignaient les lumières, on faisait des trucs cochons. Quand ils allumaient, du coup, on faisait rien, etc. On s'est fait prendre par le mono. Pendant que j'étais en train de jouer pour la première fois, il y a le mono qui allumait les lumières, qui nous a vus. Le mec qui se cache sous le lit. Bon, tu vois, tout ce truc à la fois très drôle et à la fois un peu embarrassant. Et à la fois, t'es en mode, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, moi, je comprends rien. Là, je... Et le lendemain où ce mec me voit, il m'appelle la frite. Déjà, j'ai pas de prénom. Voilà. Et on se parle plus, en fait. On s'est pas calculé du voyage. Je pense qu'on était à la fois gênés un peu par ce qu'on avait fait, mais en même temps, on sentait qu'il y avait ce truc... comment dire, bah en fait moi le fait qu'il m'appelle la frite et que machin et que il se vantait en fait, genre c'était ah ouais cette meuf et tout je l'ai fait kiffer nanana, ou genre dès le premier soir j'ai fait ça nanana. Enfin à la fois il se vantait de ouf de ce qu'il avait fait et à la fois moi il fallait pas trop que je me vante, enfin pour moi c'était dégradant. Mmh. Et c'est là où je relate un peu avec ton histoire, c'était que à la fois bah ouais c'était hyper cool, c'était excitant et tout, moi quand je m'écoute bah j'ai trop kiffé en vrai. Et en même temps, bah, dès le lendemain, j'ai eu hyper honte et j'étais censée avoir honte. Je devais surtout pas être fière, alors que lui pouvait brag, you know, brag around and be like, oh yeah. Je sais pas pourquoi je l'ai fait en anglais, mais j'ai le mot brag qui revient dans ma tête. Du coup, j'ai envie de le sortir et voilà. Mais ouais, et du coup, le lendemain, je me suis tout de suite dit, ah non, mais en fait, c'est pas ce qui est attendu de moi. Je suis censée en avoir... Et c'est vrai que aussi, ça m'a forgé dans ma sexualité après en tant que pré-ado, ado. Là, j'avais 13, 14 ans, un truc comme ça. Et ce qui arrive à bon nombre d'entre nous. Ce qui est intéressant, je t'ai dit dans ton histoire, c'est que... Donc, t'as vécu un truc un peu similaire comme ça, plus dur, je pense, plus dur pour toi, parce que c'était ta première fois, ta première pénétration. Donc, en effet, en plus, on a tendance à vachement romantiser cet acte-là. Tu veux le faire bien. On dit que si on veut que tu sois quelqu'un de bien... Je schématise, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on nous dit. Hein. C'est que, quelque part, si tu veux être quelqu'un de bien et être épanoui dans ta vie, il faut que ta première fois, ce soit quelqu'un avec qui ça se passe bien, et machin, et le prince charmant, et ceci, et cela. Et là, du coup, qu'avec ce mec-là, tu te sens trop bien, tu te sens bien dans ta peau, tu commences à peine à découvrir ta féminité, et à te lâcher, et juste à... En fait, surtout quand on est ado, en fait, on n'est pas en train de se regarder dans un miroir, on est juste en train de vivre, donc on se rend même pas compte qu'on est excitante. Mmh. On se rend pas compte qu'on est des salopes. Juste, on est en train de kiffer, mais comme lui, en fait, il avait une tête d'un mec qui est en train de kiffer. Et c'est pas pour autant que tu l'as regardé en lui disant « Mais t'es vraiment un gros cochon, toi, en fait. Mais t'es dégueulasse. » Enfin, d'ailleurs, je serais hyper intéressée d'avoir un témoignage d'un mec comme ça qui a été...
À qui on a dit ça ?
Bah ouais, tu vois.
Je sais pas si tu vas en trouver, hein.
Mais ce serait intéressant. Bah, et quelque part, le fond de ma réflexion, il est là. Il est pourquoi est-ce que les mecs s'autorisent à dire des choses comme ça aux meufs? Et pourquoi est-ce que nous, les meufs, ça nous traverse même pas l'esprit? Enfin, encore maintenant, si je peux arriver à dire ça à un mec, c'est vraiment c'est très, très, très excitant. Oui, et ce sera pas pour le descendre. Et pourquoi est-ce que chez les mecs, c'est aussi choquant Enfin, ouais, ça, j'ai pas la réponse.
Bah, je pense que, enfin, là, quand c'est dit pour rabaisser, c'est dit dans un rapport de domination, et du coup, je pense que ça leur permet de rester dans ce truc-là. C'est pour ça, moi, je pense que, alors, c'est une interprétation, et je suis pas spécialiste du sujet, mais sur la question de, ils ont du mal à recevoir le désir de la femme. Enfin, je sais pas, ils le vivent comme quelque chose de menaçant, peut-être, d'une certaine manière, quand il est complètement libre et qu'il est pas dans les cases qui les arrangent eux. Tu vois, il y a quelque chose de non contrôlable pour eux, je sais pas.
Est-ce que c'est pas aussi que bah en fait les garçons comme aux petites filles, on leur a appris que la petite fille c'était quelque chose de très doux, très sage, très gentillet, et que tout d'un coup bah aussi en leur montrant que la femme bah c'est un être humain comme eux et que ça peut être aussi un animal, bah du coup c'est en mode ah mais attends on respecte plus les règles. Enfin, parce que enfin, les garçons sont autant victimes des nanas du patriarcat. Et,
bien sûr.
Et j'ai l'impression que ça relève un peu de tout ça, quoi.
Bien sûr.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que ton histoire, j'ai l'impression que c'est un peu une conséquence d'une cause un peu plus antérieure ou de... Enfin... pour que ça t'affecte autant, bon, ben bah, voilà.
C'est ah oui, une... non, de toute façon, pour que ça ait été aussi violent, c'est qu'il y avait... Évidemment, c'est venu toucher ailleurs autre chose. C'est certain. Après, sincèrement, c'est des choses... Enfin, j'ai pas la réponse. Et peut-être que c'est ça mon chemin aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver la réponse
c'est trop chouette.
À cette question.
Trop chouette.
Je sais pas si j'y arriverai. Après, voilà, je pense qu'il y avait ces questions d'estime de soi, tout ça. Mais je pense que c'est peut-être aussi lié à mon rapport avec mon corps, avec ma sexualité, avec toutes ces choses-là. Je sais pas, mais je pense que il faut trouver la réponse parce qu'il y a je sais pas comment expliquer, il y a une espèce de bloc, il y a un truc qui est un peu coincé quelque part et je sens qu'il faut le faut le débloquer.
Parce que depuis cette histoire-là, du coup, t'as jamais réussi du coup à être une salope depuis, par exemple au lit, c'est vraiment quelque chose qui t'a cloisonné quelque part, tu penses?
Alors pendant un moment, ça m'a beaucoup cloisonné parce que du coup, donc il y a eu cette histoire et à peu près un an après, j'ai rencontré là une personne avec qui j'ai entamé une relation pendant 4 ans, qui pour le coup lui était un mec super gentil, etc. Mais tu vois, au début de notre relation, les 3 premiers mois, c'était impossible de faire de la pénétration parce que ça ne rentrait pas. Donc en gros, j'ai fait du vaginisme, mais vraiment bien tapé. Donc il y a rien qui rentrait. C'était alors, il était hyper compréhensif.
Est-ce que tu peux expliquer avec ton vécu qu'est-ce que c'est que le vaginisme pour tous ceux qui nous
écoutent? Bah du coup, en gros, c'est les muscles du périnée qui se contractent très fort et tellement fort que bah du coup, ça bouche, enfin le vagin se ferme, on ne peut rien faire rentrer et du coup, c'est quelque chose d'inconscient et qu'on ne maîtrise pas et du coup, on ne peut pas desserrer. Alors soit il paraît que, enfin, là je suis pas spécialiste, mais il y a primaire, secondaire. Le primaire, ce serait inné, mais en fait, c'est jamais complètement inné. C'est qu'il y a eu des événements, souvent c'est consécutif d'un événement traumatique, vécu comme traumatique par la personne. Et du coup, bah, c'est gênant, évidemment, pour avoir une sexualité pénétrative, ce qui n'empêche pas, évidemment, d'avoir d'autres formes de sexualité. Et donc, moi, à l'époque, j'étais en thérapie. J'étais en psychanalyse même, donc j'étais jeune, j'avais 20 ans.
Bon, tu as fait super jeune, la thérapie.
Ouais, mon papa est psychanalyste, alors du coup ça
d'accord.
Aide à finir chez le psy rapidement. Après, bon, la thérapie en soi, il faut aussi être chez un bon thérapeute, chez quelqu'un qui t'aide, parce que des fois c'est pas toujours le cas. Je pense qu'elle était très sympa, mais c'était une vraie psychanalyste pure et dure. Tu vois, on faisait des séances de 15 minutes. Alors, je te laisse voir le truc. Sur le divan, bon, le divan à la rigueur, c'est pas grave, mais 15 minutes, c'est très court. Et tu vois.
Il se passe quoi en 15 minutes?
Pas grand-chose. Mais du coup, ça t'apprend à être très concis et très synthétique. Et tu vois, un jour, elle m'a dit. Enfin, je parlais de ça et du fait que j'arrivais pas à avoir des rapports pénétratifs. Et je crois, un jour, elle m'a dit un truc du style ah, mais bon, c'est bon, vous avez qu'à mettre un suppositoire de space-fond. Et puis voilà, quoi, tu vois. Je pense à la violence. Du propos, quand même. Je ne suis pas sûre que ça ait aidé. En termes de culpabilité, tu vois. Ouais, c'est hyper violent.
L-E-L-E-O, Lélélélélo. Et cette année, Lélo, pionnier du marché des accessoires intimes haut de gamme, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25%. Avec le code COCO25. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le Lélo Dot Cruise. Au moment de l'orgasme, il va relâcher 20% supplémentaire de vibration pour justement créer cette décharge dans ton corps. Au-delà de leurs produits qui sont super classe, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. L-E-L-E-O, Lélélélélo. Donc, non, mais comme quoi, c'est bien de se faire suivre, mais faut-il encore que la personne qui vous suit est en lien, est alignée avec vos envies et vos besoins et vos limites, surtout quand il y a la sexualité, parce que comme c'est un sujet
d'autant
très tabou.
D'autant plus. Ouais. Et que ça se cristallise très vite, en plus, je pense, à cet endroit-là, parce qu'on touche à tellement de l'intime pur. Mm. Donc voilà, et bon, finalement, je ne sais plus trop exactement comment, mais ça s'était débloqué. On a pu commencer à avoir des rapports pénétratifs. Et on a eu une sexualité plutôt satisfaisante, ça se passait bien, c'était chouette. Après, j'ai eu d'autres soucis. Et
comment t'as fait pour te détendre du coup avec lui?
Franchement, je sais plus trop quel moment on a basculé. Je pense qu'il a été très patient, je pense que j'ai été plus en plus en confiance.
Il a pris le temps de te mettre en sécurité.
Ouais, je pense qu'il y a eu ça, il y a eu vraiment cette confiance. Et puis voilà, c'est vraiment quelqu'un de très doux, très gentil. Tu vois, donc il m'a permis d'avoir cet espace vraiment d'accueil et de sécurité et de non-jugement. Et je pense aussi, tu vois, de voir qu'il restait, même si ça marchait pas. Du coup, ça me permettait aussi d'être plus à l'aise par rapport à cette peur que j'avais d'être utilisée aussi. Je pense qu'il y avait un peu de ça, hein, tu vois, pour la sexualité, pour ça. Et on a eu une sexualité, qui s'est passée bien, qui s'est passée de mieux en mieux. Des rapports pénétratifs réguliers. Alors moi, à l'époque, j'étais dans un autre truc. Ce qui me stressait à l'époque, c'est le nombre de rapports par semaine. Tu vois, j'étais dans un truc, je comptais. Tu vois, il faut qu'on ait au moins qu'on fasse l'amour 3 fois par semaine, parce que si on fait pas l'amour 3 fois par semaine, c'est qu'il y a un problème et tout. Donc, je sais, dans ma tête, c'est infernal. C'est pas une vie. Hein, voilà. Et donc, en fait, mon vaginisme, mes problèmes vraiment de contraction sont partis.
Et ça vient d'où, tu penses, cette pression de la performance que
je pense que c'est assez social. Parce que c'était pas lui qui me la mettait. Donc,
c'était les potes
Même pas. Je pense que c'est ce que j'entendais, de ce que les gens racontaient, peut-être. Peut-être des trucs que j'avais lus, tu sais, dans les magazines, dans les trucs comme ça, j'en sais rien à l'époque. Mais ouais, il y avait quand même quelque chose. Et il y a quelque chose qui, je pense, était quand même encore là à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui, tu vois, qui est sur la question du désir que l'autre exprime. C'est-à-dire que quand un homme exprime son désir envers moi, c'est toujours quelque chose qui me. C'est très crispant pour moi. Même si potentiellement je pourrais avoir envie. Mais ça, c'est on rejoint la question des limites. C'est que je pense que comme il y a une partie de moi qui n'ose pas dire non, même si, tu vois, parce que là, je suis fatiguée, que machin et tout. Bah, en fait, du coup, je vis le désir de l'autre comme quelque chose d'hyper intrusif. Et ça me crispe. Et donc, c'est pas être crispé, c'est rarement des bonnes conditions pour faire l'amour de façon joyeuse.
Comment tu gères ça, du coup?
Bah, du coup, maintenant, là, c'est quelque chose que je travaille depuis là, le mois de février. Je vais voir une sexothérapeute. Et donc, on travaille vraiment sur le fait de poser ses limites, de savoir dire non, tu vois, tout ça.
Elle t'a donné un exercice pour...
Ouais, bah alors elle fait de l'EMDR, parce que l'idée, c'était aussi de classifier un petit peu le trauma.
Ça t'aide bien, ça.
Je pense que ça m'aide. Je pense que ce qui m'aide aussi, c'est de me concentrer sur ce sujet, d'ouvrir la parole sur ce sujet-là. Ouais. Je pense que ouais, l'EMDR, ça m'aide bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le vaginisme est parti, mais j'ai eu une grosse année où j'ai eu des mycoses. Dans cette relation de 4 ans, la toute première, qui a suivi. Et j'ai eu des mycoses. J'avais 3 mycoses par mois pendant un an.
Ah, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
3 mycoses par mois, c'est tout le temps, quoi.
Ouais, voilà. Et c'était l'enfer. C'est horrible. Et c'est horrible parce que, genre...
Tu sais pourquoi
Alors, à l'époque, je prenais la pilule. Enfin, je prenais Diane, donc pilule très dosée. Mm. J'avais du cholestérol, donc on m'a passé sous pilule
microdosée. Elle a été interdite, cette pilule.
Ouais, depuis, elle a été interdite. Ensuite, j'ai eu, parce que j'ai des problèmes d'acné et tout ça, j'ai eu de l'androcure. Alors l'androcure, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la base des pilules, enfin c'est des médicaments qui sont faits pour inhiber, c'est ce qu'on donne par exemple aux prédateurs sexuels pour les castrer chimiquement, en version courte.
Ok, d'accord. Et pourquoi on t'a donné ça?
En fait, on donne ça aux femmes parce qu'en fait, ça inhibe la testostérone, les trucs comme ça. Et donc en fait, ça enlève les problèmes d'acné, potentiellement.
Parce que j'y étais pas du tout, j'avais pas compris.
Voilà. Mais du coup, on te le donne en plus petite dose. Et donc, en fait, comme on te donne ça, on te supplémente en oestrogène. Enfin, bon, c'est un bordel, c'est un merdier. Ne prenez jamais ça si on vous le propose.
T'avais plein de trucs chimiques dans le corps.
Ouais, du coup, j'ai eu ça. Et en fait, je pense que quand ça s'est arrêté, c'est ça. En fait, quand ça s'est arrêté, à partir de là, les mycoses ont commencé. Je pense que c'est le temps de réguler, de machin. Et puis après, une fois que c'est là, tu vois, ça s'auto-entretient. Mais j'en pleurais. Je me souviens, j'étais sur les forums.
C'est terrible.
Et puis, tu sais, sur les forums, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et du coup, je regardais et je voyais des témoignages, tu sais, sur Doctissimo, de femmes qui disaient, moi, ça fait 15 ans que j'ai des mycoses tous les mois et tout. J'étais genre, oh mon Dieu, genre, c'est ça ma vie.
Et comment tu as fait pour en guérir?
Et ben alors, du coup, je sais pas bien, parce que, ne m'écoutez pas, je ne suis pas médecin, fais le display, mais j'ai pas pris, tu vois, tous les ovules en interne, tout ça. Alors moi, j'ai arrêté l'alcool, enfin, pas que j'étais alcoolique, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool, le sucre, parce que tout ça, ça nourrit aussi. Hein. C'est là où je me suis vachement intéressée au bio, trucs comme ça. De quoi?
Des strings.
Oui, aussi. Non, mais voilà. Et du coup, je me soignais avec genre des huiles essentielles, des choses comme ça. Tu vois, j'ai
essayé
du tea tree et tout, l'arbre à thé, tout ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de partir là-dessus aussi. Ouais, et ouais. Petit à petit, ça s'est levé. Mais en fait, les conséquences, on pense que c'est ça, on n'est pas sûr. Les conséquences de ça, c'est un truc qu'on m'a diagnostiqué il y a un an et demi, après 10 ans d'errance. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai un problème de vestibulodynie, enfin de vulvodynie. C'est-à-dire que j'ai des douleurs au niveau de l'entrée du vagin. Et en fait, on imagine que c'est un V. Et du coup, en miroir, de chaque côté, au niveau du bas du V, j'ai deux points où si j'appuie, pas très fort, hein, mais si j'appuie, c'est comme si on m'enfonçait une aiguille. Ah, à cet endroit-là.
J'ai eu mal à l'intérieur du vagin juste avec ta description. Je te jure, je me suis projeté le truc.
Du coup, c'est assez désagréable. Et puis même quand tu frottes la zone, c'est...
Et t'as
c'est
toujours eu ça ou c'est les mycoses qui ont provoqué ça?
En fait, l'ostéo
que j'ai vu... Le vaginisme, c'est...
Alors, l'ostéo m'a dit qu'en fait, c'était sûrement les mycoses, parce qu'en fait, ça crée une espèce d'hyper-irritation. En fait, ton cerveau se recalibre mal, enfin, machin, tout ça. Et donc, en fait, du coup, ça a créé ce truc-là. Et donc, il y a une hypersensibilité maintenant. Et en fait, du coup, j'ai refait un espèce de vaginisme par-dessus, qui n'était pas aussi fort, mais qui était qu'en fait, dès qu'on approchait un peu de cette zone, j'ai tout mon corps qui se crispait, tu vois.
Ah, ouais, tu m'étonnes.
Parce qu'en fait, t'es toujours dans l'anticipation de la douleur.
Ouais.
Donc en fait, quand c'est douloureux, t'as pas très envie, quoi, tu vois. C'est pas très kiffant. Et donc, du coup, et ça, c'est cette question-là de la vulvodynie. Je te dis, ça fait un an et demi.
T'as jamais pensé à coucher avec une femme?
Non.
Voilà, je pose ça là.
Non, enfin, j'ai jamais pensé. Si, j'y ai pensé. Enfin, j'ai déjà pensé.
Ok, ouais, à cette question. Voilà, j'ai planté la graine.
Non, parce que j'ai déjà pensé et tout, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et en fait, je pense que autant ça peut être un fantasme, autant je sais pas si la concrétisation du fantasme.
Je le vois presque comme quelque chose de thérapeutique pour toi, en fait. Non, mais sincèrement, enfin.
Bah après, bon, de toute façon, maintenant je suis en relation, donc du coup ça va être compliqué.
Bon, alors ça veut rien dire.
Ouais, non, mais non. C'est pas.
On en parlera en off.
On en parlera en off. mais oui, effectivement, peut-être que ça aurait été de sortir de ce truc-là.
Mais déjà, ne parle pas au passé. Mais c'est. Parce que. Je pense à ça parce qu'en fait, entre femmes, du coup, il y a une certaine. Une crainte qui y a moins du coup parce que c'est pas le même rapport et peut-être parce que toi-même aussi t'es pas dans un truc de séduction si jamais t'es pas attiré, enfin si t'es plus attiré par l'expérience que par la femme, du coup t'es moins dans un truc de désir et de séduction. Et il y a quelques ateliers sur Paris notamment où même il y a des femmes qui se montrent, il y a des groupes en fait d'entraide où les femmes se montrent leur clito, leur chatte. Et du coup, ça permet juste de décomplexer, de dire « Ah, mais ok, en fait, on est toutes hyper différentes. » Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis parfois, l'apport d'une femme, c'est très doux, c'est... voilà, écoute, je pensais à ça, là. Je t'en parle comme ça vient, mais tu fais ce que tu veux de cette information.
j'y ai réfléchi avec ça. C'est jamais arrivé en tout cas, mais c'est quelque chose auquel j'ai songé sans aller au bout du truc.
Après, si toutes les meufs qui ne sont pas hétéros autour de moi, autour de toi, pensent que t'es lesbienne. J'arrive plus à parler. Pense que tu es hétéro, c'est sûr que ça ne peut pas arriver.
J'aurais pu moi me mettre dans une recherche active de cette expérience.
Oui.
Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai fait.
Ouais. C'est peut-être le début de la démarche. Bon voilà, bref. Excuse-moi, je voulais pas.
Pardon. Pas du tout. Non, mais bon, en tout cas voilà. Du coup, il y a eu cette question-là aussi, et donc cette question de la vulvodynie et tout. Donc j'ai travaillé aussi avec l'ostéopathe sur l'assouplissement des muscles du périnée, toutes ces choses-là, pour enlever le réflexe de contraction. Donc maintenant, j'ai moins ça. J'ai encore, mais j'ai moins ça. Et du coup, maintenant, ce que je travaille avec la sexothérapeute, c'est plutôt sur le traumatisme. Et c'est sur le fait d'oser poser les limites, tu vois, d'exprimer. Et en fait, je le sais maintenant, ce que je vois dans ma relation. Ah, je suis avec quelqu'un qui est vraiment adorable, hyper compréhensif. Pas du tout, tu vois, il me pousse pas. Enfin, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Il est très soutenant. Donc, c'est pas du tout un sujet. Mais malgré tout, et je sais que c'est de moi à moi, il y a toujours cette pression de... tu vois, par exemple, quand il s'agit de dire non, potentiellement, le truc auquel je pense, c'est « Ah ben oui, mais du coup, si je dis non, qu'est-ce que lui va penser ?» Et du coup, il va être frustré et machin, etc. Tu vois. Et donc, du coup, je pense que c'est ouais. vraiment ça la clé. Et c'est ça qu'il faut que je fasse changer. C'est ce rapport au désir et au plaisir qui soit plus centré sur l'autre et son désir et son plaisir.
Centré sur moi
ouais. et dans cette expérience-là. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire shifter petit à petit.
Et la masturbation, tu te masturbes toute seule ?
Alors, récemment, non. Enfin, en fait, depuis que je suis en relation, non, même si c'est pas du tout lié dans
mais
le sens
avant,
où...
Mais oui. avant, c'était oui. pas un sujet chez toi.
Non, c'est pas c'est pas un tabou, d'accord. tu vois. C'est
quelque chose... Et t'as pas mal quand tu te masturbes ?
Non, j'ai pas mal quand je me masturbe.
Ouais. Après, ça prouve que t'as pas un problème.
Enfin, j'ai pas mal. Ça dépend, tu vois. Enfin, si c'est de la masturbation pénétrative, tu vois, avec des sextoys ou avec mes doigts et tout, ça me faisait quand même un peu mal.
D'accord.
Parce que tu vois, même si je mets un petit baume à l'entrée de ma vulve et que je touche à cet endroit-là, ça me fait mal, c'est douloureux.
Donc, oui, maintenant, oui, parce que t'as développé...
Oui, c'est ça, okay. à cause de la vulvodynie, de toute
vulvodynie,
façon.
Merci.
Donc il y a cette fragilité qui est là toujours, de toute façon.
Oui, mais avant d'avoir la vulvodynie, t'avais pas de soucis
bah, ça fait du coup au moins 10 ans, je pense. Donc du coup, j'ai du mal à me rappeler de l'époque.
Ça fait un moment que c'est installé.
Ah okay. bah, je pense que ça s'est installé suite aux mycoses, donc ouais, ça fait 10 ans, plus de 10 ans.
Moi, j'avais eu cette période aussi de mycose sur mycose sur mycose. Alors, mycose sur cystite sur mycose sur cystite. Je sais pas si toi, t'avais aussi.
J'ai jamais eu de cystite. Alors là, j'ai été épargnée de ça.
Ouais, bah, moi, c'était genre dès que je guérissais la mycose, c'était la cystite. Et puis, enfin, c'était le cercle vicieux entre les deux. Et le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'était un gynéco vieux de la vieille qui m'a dit : « Mais mademoiselle, ne faites plus rien. »
Oui,
t'as genre quoi ? Il m'a dit : « Mais ne faites plus rien. Surtout, ne faites plus rien. »
Touchez plus voilà. à rien.
Et vous arrêtez le sucre, comme tu disais, vous mangez sainement, vous machin. Mais surtout, ne faites plus rien. Stop les ovules, stop.
Ah bah oui, mais en fait, ça décape. Hein, donc
Et ouais, et en fait, au bout de 2 semaines, j'étais guérie. Et depuis, j'ai plus de problème. Alors oui, ça m'arrive encore de temps en temps, mais normal en fait. Enfin, plein de... Et c'est là où tu dis, ah ouais, c'est ouf. Enfin, en fait, le corps, il est méga intelligent. Enfin, c'est assez incroyable. Mais ouais, putain, ça devait pas être drôle pour toi. Ouais, je comprends.
Oui, donc voilà, du coup, là, maintenant,
merci de parler de tout ça, parce que ça demande beaucoup de courage. Non, mais c'est vrai, merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci.
Ça demande beaucoup de courage de parler de tout ça, beaucoup de sincérité. si tu avais 3 conseils à donner aujourd'hui, par rapport à tout ce dont on a parlé parce que de quand même pas mal de choses, tu auras envie de dire quoi ? Ou plutôt, vas-y, non, je regarde ma deuxième question pour juste après.
3 conseils, tu veux dire, par rapport à la sexualité, aux relations, à ce genre de choses ?
Ouais, par rapport à ton vécu, toi.
Bah, je pense que le premier, c'est de vraiment ne pas avoir peur de demander de l'aide quand il y a un sujet qui est source de souffrance, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Parce que moi, j'ai tardé. C'est parce que je savais pas aussi ce que c'était, mais enfin voilà. Et il faut pas se culpabiliser, en fait. On fait les choses comme on peut, hein, mais voilà, il faut pas avoir honte. Et sur des sujets surtout liés à la sexualité, déjà liés aux relations, c'est difficile, mais liés à la sexualité en particulier, c'est d'autant plus difficile de passer le cap pour beaucoup de personnes. Donc il faut pas avoir honte de ça. Premier point. 3, c'est pas facile. Hein. Deuxième point.
T'es pas obligé.
Non, mais le deuxième point, je dirais que c'est de vraiment apprendre à bien s'écouter. Et à se faire passer en priorité, mais pas d'une façon égoïste, qui est écrasante pour l'autre, mais qui est conservatrice pour soi. Dans le sens de poser ses limites et de, si ouais. c'est non, on dit non. Et voilà, d'oser exprimer ça, à la fois son désir, mais son non-désir. Et des fois, c'est plus difficile d'exprimer son non-désir, je pense, que son désir. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pareil, mais en tout cas, pour moi, c'est compliqué.
En fait, quand on pose ses limites, quand on apprend à dire non, juste en fait, c'est un indicateur pour l'autre personne pour savoir comment mieux jouer sur votre terrain de jeu, avec vos règles du jeu. Et c'est pas du tout un frein, au contraire. On dit toujours, dans le monde de l'art en tout cas, le monde dont je viens, on dit toujours que de la contrainte naît la créativité. Et c'est exactement ça, c'est parce que tout d'un coup je te dis, bah tiens, je te donne une feuille A4. Et je te donne une feuille A4 et je te donne trois stylos de telle couleur. Fais-moi le plus beau dessin que tu puisses avec ça. Et c'est parce que je t'ai donné un cadre et des limites que là, du coup, tu vas vraiment t'éclater au sein de ce cadre. Mmh. Et ben, au sein d'un couple, c'est la même chose. Parce que tu vas connaître mes limites et mes besoins, et parce que moi, je vais connaître tes limites, ben, comment je vais jouer avec ça et comment on va apprendre à se connaître, et du coup, dans un cadre sécurisant, et ben, on va se donner une multitude plein de possibilités illimitées de s'amuser.
Mmh. Ah bah oui, bah complètement. De toute façon, les gens pensent toujours que la liberté, c'est l'absence de contraintes, alors que la liberté, c'est choisir ses contraintes. Déjà.
Parfait, c'est ça.
Du coup, la deuxième question.
Et ça rejoint un petit peu, mais je me demandais, la Claudia d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire à la Claudia de 17 ans ? Si c'était, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ?
Ah bah là, du coup, pas mal de trucs. Hein.
Non, mais si t'avais un conseil à lui donner, ouais.
Bah, je pense qu'on en revient à cette question de s'écouter, tu vois, et de dire non, et de pas se forcer, en fait. De pas se forcer pour faire plaisir aux autres. Et c'est assez large, d'ailleurs, c'est pas que dans la sexualité. Hein.
Ah non. Oui, bah, de toute façon, en général, quand t'as ce souci-là dans la sexualité, c'est que tu l'as dans tout. Voilà.
Et que les gens ne vont pas moins t'aimer parce que tu dis non, et que quand bien même ça arrive, bah, c'est pas grave.
Et que les gens t'aiment peut-être plus que ce que tu ne crois, du coup.
Aussi, oui. Ouais. Et puis que si les gens ne t'aiment pas avec tes limites, ils ne t'aiment pas toi aussi. Mmh, mmh, mmh. Complètement.
Super. J'ai quelques toutes petites questions de fin, histoire de finir dans le fun.
Allez.
Si ça te dit. Alors, les questions fun de Coco. Est-ce que tu te souviens sur quelle musique tu as embrassé la dernière fois ?
J'ai embrassé mon mec avant de partir pour venir ici, alors du coup, il n'y avait pas de musique.
Et sur quelle musique aimes-tu faire l'amour ?
Moi, je suis plutôt genre ambiance, tu vois, salon de massage, petite musique.
La musique de méditation, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, parce que ça me permet d'essayer de revenir, parce que moi, le problème, c'est que je cérébralise beaucoup. Et du coup, je pars beaucoup dans ma tête. Et du coup, ça me permet de revenir
de te recentrer.
Dans le corps, ouais.
Très bien, cool. C'est quoi le livre de ta table de chevet en ce moment ?
J'en ai deux. J'en ai un sur l'analyse transactionnelle, ça c'est pour le travail.
Et
j'ai un livre de Bernard Werber, je n'ai plus le nom.
Le dernier, là ?
Ouais, bah, où il écrit sur son histoire d'écrivain, tu vois, qui est hyper intéressant.
Trop bien, trop chouette. C'est quoi l'analyse transactionnelle ?
C'est une forme de thérapie. J'essaie de faire ça. Désolée pour les psys qui écoutent, hein, je fais la version de la meuf qui a lu qu'un livre.
Juste pour me faire un débrief de
non,
une
non,
phrase.
Mais en gros, c'est un format de thérapie qui explique qu'en gros, on porte tous en nous trois aspects de personnalité qui sont différentes, le parent, l'adulte et l'enfant. Mmh. Et que souvent, quand il y a des névroses ou même des psychoses, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a potentiellement une contamination des pôles. Par exemple, le pôle enfant a contaminé le pôle adulte et qu'en fait, il vient s'exprimer par ce biais-là, par une façon de mettre en place la personnalité, de mettre en place des jeux de rôle dans les dynamiques relationnelles avec les autres interpersonnelles. Et donc, tout le travail de l'analyse transactionnelle, c'est comment est-ce qu'on décontamine ça et comment on aide la personne à rentrer pleinement dans son adulte pour ne plus être purement dans l'enfant ou purement dans le parent. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas parce qu'on shift forcément, mais que la figure majoritaire et sociale aussi qu'on montre, c'est cet adulte plus ancré.
Ah, trop bien. Ok, ça m'intéresse.
Version courte. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Ouais.
Okay. Non, mais c'est très, très intriguant.
Et beaucoup plus complexe que ça.
Oui, bah, j'imagine. Non, mais bien sûr. Mais c'est ok, trop cool. Je pense que ça peut beaucoup m'intéresser. quel est le dernier souvenir que tu as en tête qui t'a excité ?
Bonne question, ça. Tu vois, j'ai du mal à répondre à cette question. Ah, c'est dur. Objectivement, je sais que je laisse peu de place à ma sexualité et à mes fantasmes en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai du mal.
Je peux passer à la prochaine
question. Vas-y, passe à la prochaine
question. Qui est toujours axée sexualité. Hein.
Attention. Ouais, vas-y. Ouais.
Est-ce que tu arriverais à citer une pratique ou un exercice ou une curiosité que tu n'as jamais essayé que tu voudrais tester
Comment ça s'appelle? C'est le shibari là où tu
attaches? Les cordes.
Ouais, les cordes, c'est ouais. Ça. Ouais, ça, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant.
En effet, ça pourrait être très cool. Je pense que je te vois bien faire
ça. Bah, sur le lâcher prise, on est pas mal là.
Ouais, et puis c'est quelque chose qui peut être pratiqué de manière très douce. Et du coup, c'est juste parfois avec la contrainte sur ta peau. En fait, ça crée sur ta peau des sensations beaucoup plus fortes derrière. Mais rien qu'à la caresse ou au souffle, le souffle, tu vois, de quelqu'un qui va venir souffler dans ton cou, et ça va être beaucoup plus fort et tout en restant très doux. Donc ça, je pense, que ça pourrait te plaire de cette manière-là. En effet, je te recommande. Et dernière question. Est-ce que tu connais une personne de ton entourage ou non, influente, que tu vois derrière ce micro pour discuter avec moi?
Alors que je connaisse assez pour te la recommander. tu m'as dit influente ou non, c'est ça?
De ton entourage ou non?
Ouais, alors de mon entourage qui n'est pas influente, j'ai une amie à laquelle je pense qui, du coup. Ouais, si, il y a Elodie potentiellement. Et sinon, influente, bah, il y a Margot, qui est du coup ma sexothérapeute, que j'avais reçue moi aussi dans le podcast. Et pour le coup, je pense qu'elle a un cheminement qui peut être intéressant.
Margot comment? Parce que j'ai eu une Margot ce matin, alors.
Son nom de famille, là, comme ça, m'échappe, mais je te le donnerai si tu veux. Et alors, elle, pour le coup, tu n'auras pas besoin de la ralentir, parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus. Elle a une énergie très. Mais bon, je trouve ça trop bien, très apaisante. Donc on est pas...
Et pourquoi Elodie, pourquoi Margot?
Parce que Elodie, c'est quelqu'un que je perçois comme quelqu'un de plus libre que moi dans sa sexualité.
C'est intéressant que tu relèves ça.
Et donc c'est pour avoir l'opposé de moi, tu vois, si tu voulais faire un truc. Et Margot, parce que je pense qu'elle a un parcours à la fois personnel et professionnel. Enfin, elle a ce regard professionnel qui est intéressant, du coup. Et cette énergie qui est aussi assez opposée à la mienne.
Qu'est-ce qui la démarque?
Bah, tu vois, elle s'est formée aux États-Unis. Apparemment, ce n'est pas du tout la même approche de la sexothérapie, de la sexologie là-bas. Donc, du coup, elle ramène ce truc-là.
Ok, intéressant.
Je crois qu'elle a vécu en Allemagne aussi. Donc, voilà, du coup, elle a une vision un peu plus internationale et transculturelle. De la sexualité.
Ah, en effet, c'est hyper intéressant.
Ça peut être chouette.
Trop chouette. Trop bien. Merci beaucoup, Claudia.
Avec plaisir.
Merci de t'être confiée à mon micro. Ça t'a plu?
Bah ouais, c'était cool. J'espère que ça sera intéressant.
Je pense que c'était très intéressant.
Bon, bah ça va.
Non, clairement. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vécu des choses similaires à ce que tu as vécu et qui vont... Je pense que tu as donné beaucoup de clés, même sans t'en rendre compte.
Bah, tant mieux. Ouais. C'était l'essentiel.
Merci à tous. Merci à toi, chère auditrice, chère auditeur, d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire ou de vous entendre. Maintenant, sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires audio, des petits messages vocaux. Et comme ça, je vous entends. Ça permet un peu que moi aussi, je découvre votre voix. Vous pouvez me retrouver sur tous les podcasts, Deezer, Spotify, etc. Si vous voulez des histoires immersives, olé olé, le contenu exclusif, il est réservé aux membres du Club Coco. Les liens sont à la description. Et pour un accompagnement Better Call Coco, ça se passe aussi dans le lien dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Où est-ce qu'on te retrouve, Claudia?
Sur Instagram, selfloveprojectfr, tout attaché.
Trop bien, super. Et est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin?
Alors là, non, il n'y a rien qui me vient. Je suis à sec.
Aimez-vous. Eh bien, merci à tous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.